Dans ce journal, on parle de ce partenariat international signé par le Tavigny. On entendra Muay Thai Brotherson à propos du choix de Philippe Marie à la tête de la compagnie ATN. Et on terminera avec de la lecture. Le journal, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On commence donc par ce partenariat international signé par le Tavigny.
Les médias d'État d'Azerbaïdjan, un petit pays d'Europe centrale, ont annoncé la signature d'un mémorandum entre le parti Bleu Ciel et le groupe d'initiative de Bakou, une structure internationale créée en 2023 par le gouvernement azéri pour lutter, je cite, « contre le colonialisme français ». Valdemar Delage, c'est Oscar Temaru qui a signé ce texte. Il a été présenté aujourd'hui à Vienne par Vito Mama Tuyahutapu et Richard Tuheyava.
Oui Lucie, les deux représentants du leader indépendantiste ont participé à une conférence organisée au siège de l'ONU par ce fameux groupe d'initiative de Bakou qui rassemble différents courants indépendantistes venus des territoires d'outre-mer. Le contenu exact du texte n'est pas encore connu. Le Tavigny s'en expliquera au retour de ces deux émissaires, mais d'après le média Azertak, l'agence de propagande de ce pays d'Europe centrale considéré comme l'un des plus autoritaires du monde, il s'agit de poser les bases de relations et de coopération future, notamment pour obtenir des résultats importants dans le sens de la décolonisation. Selon la secrétaire générale adjointe du Tavigny, Ella Tokoragi, membre du conseil d'administration de ce groupe d'initiative, il s'agit d'une possibilité de se faire entendre à l'international. Et dit-elle encore, si ce mémorandum peut déclencher une réaction de la France et pousser l'État à se mettre à la table des négociations pour la Polynésie, alors c'est bon à prendre. Fin de citation, Lucie.
Et cet accord, il intervient quelques jours seulement après une autre signature, mais cette fois entre l'Azerbaïdjan et les indépendantistes kanak.
Oui, il s'agissait sur le même modèle d'un accord de coopération qui avait été signé par Roch Ouamitan, président du Congrès de Nouvelle-Calédonie et figure de l'indépendantisme kanak. Un texte qui a fait beaucoup parler d'abord en suscitant un tollé dans les rangs loyalistes en Calédonie et en entraînant aussi des réactions jusqu'à Paris. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a dénoncé lundi une ingérence extrêmement néfaste de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. Il faut dire que les relations entre la France et cet État du Caucase, dirigé par le même président depuis 21 ans, eh bien elles sont au plus mal depuis plusieurs mois. D'un côté, Bakou reproche à Paris de soutenir l'Arménie, avec qui l'Azerbaïdjan est en conflit au sujet de la région du Haut-Karabagh. La France, elle, reproche aux Azéris de multiples tentatives de déstabilisation, et notamment donc dans ces territoires d'outre-mer, Lucie.
Merci Valdemar. À noter que du côté du Tavigny, on se défend toutefois de toute instrumentalisation. Ella Tokoragi tient à rappeler que ce mémorandum n'implique absolument pas un soutien à la politique intérieure ou extérieure de l'Azerbaïdjan, qui, on le rappelle, est accusé de crimes de guerre dans son conflit avec l'Arménie.
Ça a été officialisé hier, Lucie. Philippe Marie deviendra PDG d'Air Tahiti Mui le 1er juillet prochain.
Le nom du président actuel de Marara Payment qui succède ici à Michel Monvoisin n'est pas une surprise. Muay Thai Brotherson avait déjà évoqué sa volonté d'entamer un nouveau cycle pour la compagnie du pays. Et Philippe Marie avait intégré le conseil d'administration de la compagnie en octobre, un préalable avant de pouvoir être nommé PDG. Écoutez les précisions du président.
Au fil des réunions et au fil des CA qu'on a pu tenir, j'ai très vite remarqué, on va dire, ses qualités, sa connaissance du domaine et la vision qu'il portait. Donc c'est un secteur où c'est pas forcément évident de trouver les personnes adéquates. Philippe Marie a le gros avantage de déjà connaître ATN puisqu'il a été secrétaire général d'ATN, il a été celui qui a en grande partie opérer le financement des premiers avions de la compagnie. Donc c'est un avantage non négligeable à mon sens.
Philippe Marie devra préparer son plan d'action avant son entrée en fonction au 1er juillet et il aura pour ça une feuille de route qui va repréciser la vision du pays au sujet de l'avenir de la compagnie. Elle devrait probablement évoquer les difficultés de ces dernières années, la crise sanitaire, les pertes qui se montent à 3,2 milliards de francs, la concurrence forte sur la ligne des États-Unis, mais aussi un manque de stratégie du pays qui avait été noté à la fois par la Chambre territoriale des comptes et par le PDG sortant Michel Monvoisin. Mais le président attend surtout du nouveau dirigeant qu'il fasse en sorte qu'ATN soit une compagnie qui puisse voler de ses propres ailes, car aujourd'hui la société d'économie mixte est détenue à 85% par la Polynésie et aucun de ses petits actionnaires ne dépasse les 4% au capital. Pour le président, le moment est venu de trouver des partenaires plus importants ou au moins d'étudier cette possibilité.
Je pense que le temps est venu, quand on voit ce qui se passe au niveau mondial dans le secteur, quand on voit ce qu'a opéré, par exemple, une compagnie qu'on connaît bien et qu'on observe attentivement, qui est Fiji Airways, on voit que l'entrée au capital de grands groupes du secteur est un facteur de progrès. Donc, est-ce qu'il faut aller vers là? Si oui, quels sont ces partenaires avec à qui il faudrait proposer d'entrer au capital d'Air Fighting? C'est à la future équipe dirigeante de nous faire des propositions.
Reste désormais à savoir qui sera le directeur général délégué de Philippe Marie. Hier, rien n'a été acté concernant le poste assumé depuis 2013 et donc pendant tout le mandat de Michel Monvoisin par Mathieu Béchonnet, un dirigeant que Moëta Ibroversan a rencontré très récemment.
Côté justice, le Père Noël sera jugé le 25 février pour abus de confiance.
Il officiait à Taravao et a été récemment suspendu de ses fonctions par le Vatican. Le Père Noël Ato Nohotemorea sera jugé le 25 février 2025 pour abus de confiance. Il encourt 5 ans de prison. Selon la procureure de la République Solène Bellawar, l'ecclésiastique est soupçonné d'avoir détourné un peu plus de 13 millions de francs au détriment du CAMICA, le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti. Une somme dont il aurait fait bénéficier 4 membres de sa famille et une amie. Il se serait également approprié le véhicule neuf d'une de ses ouailles. Et plus grave, l'homme d'église est aussi suspecté d'avoir agressé sexuellement une de ses paroissiennes. Une enquête préliminaire pour viol est actuellement ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie.
Et on s'intéresse à la consultation sur les rythmes scolaires.
Lancé en mars, le ministre de l'Éducation a annoncé les résultats hier. 86,7% des familles y auraient pris part. Et sur les 6 scénarios proposés, 2 ont particulièrement retenu l'attention des parents. Le premier, une semaine de 5 jours, avec mercredi et vendredi après-midi de libre. La baisse d'horaire implique seulement une entrée en classe plus tardive ou une sortie plus tôt. Le second scénario, arrivé dans le duo de tête, est un peu plus révolutionnaire. Des cours qui s'arrêtent tous les jours à la pause déjeuner. Mais cette consultation n'est qu'un avis, il faut désormais consulter l'État Vana et voir la réalité sur le terrain, notamment la question des transports. Les précisions du ministre Rony Teripaya.
C'est juste un avis, il s'agit ensuite de continuer les consultations auprès du Tavana, des communes, c'est important, via les inspecteurs de l'éducation nationale pour pouvoir justement arrêter définitivement notamment la question des horaires. Pour l'instant, le ministère a donné son avis, mais ça peut être modifié par la suite. Tout dépend de la tournure des réunions qui auront lieu avec les communes, puisqu'il s'agira après de voir exactement la réalité du terrain par rapport notamment à la question du transport, c'est important.
Ce travail sur les transports scolaires sera réfléchi avec le ministère de l'Équipement qui doit, je cite, « repenser la fluidité du trafic sur l'île de Tahiti ». Objectif réduire la congestion, une responsabilité du ministre Jordi Chan.
Un des objectifs stratégiques qu'on a, c'est de réduire la congestion et notamment par le biais de la réduction de la demande, c'est-à-dire la réduction du nombre de véhicules qui sont au même endroit au même moment. Et on se rend compte, notamment pendant les vacances scolaires, que c'est une donnée qui influe énormément la congestion. Mais ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que c'est principalement les horaires d'arrivée des véhicules qui sont décalés qui influent la congestion. Et du coup, c'est pour ça qu'on souhaite agir sur la demande et la réforme des rythmes scolaires offre une occasion unique pour ce faire.
Au cours des 3 prochaines semaines, un bureau d'études va analyser différents modèles horaires et donc peut-être venir contredire lui aussi le souhait des parents. Les rythmes scolaires définitifs, qui ne seront pas forcément les mêmes en fonction des communes mais aussi en fonction des écoles, seront annoncés à la mi-juin. Au total, 182 écoles et 20 centres des jeunes adolescents sont concernés par ces changements et le ministre n'exclut pas la possibilité, si nécessaire, de changer aussi les horaires de certains collèges.
Une fête se prépare demain.
Oui, celle du travail et des travailleurs chômés depuis plus de 100 ans en France comme dans de nombreux pays occidentaux. Le 1er mai est dédié aux revendications salariales et à la commémoration des combats ouvriers du passé. Pas de manifestation au programme cette année pour les syndicats polynésiens, mais un rassemblement sur l'avenue Puvanaopa et des cérémonies pour les travailleurs du nucléaire. On devrait aussi croiser des membres du gouvernement sur l'avenue puisque la présidence a tenté de reprendre en main l'organisation de ce 1er mai, en proposant aux syndicats un programme complet, ce que la plupart ont refusé. Mais la séance de discussion aura bien lieu à la présidence, au programme hausse des salaires, lutte contre les faux patentés, fonds de soutien aux salariés licenciés. L'après-midi sera lui consacré à des discussions entre le gouvernement et les représentants des entreprises, avec là aussi de nombreuses demandes. Quant au déjeuner de ce 1er mai, la présidence a invité tous les partenaires sociaux, mais pas sûr toutefois que les syndicats choisissent de célébrer la fête des travailleurs avec les patrons.
Et pendant ce temps-là, Lucie, les salariés se battront sur un autre terrain.
Oui, celui du sport, avec le triathlon des entreprises qui a atteint un record de participation avec 400 équipes, soit 1200 participants. 5 km à parcourir à pied pour le coureur, 16 km pour le cycliste et enfin 600 m pour le nageur autour du Motu de Harué. Départ à 8h et bonne chance évidemment à notre équipe de Radio 1 qui s'aligne pour la première fois sur cette compétition.
Et on termine avec un peu de culture, avec ce livre sur les marquises.
Benjamin Teiki Totohua était notre invité ce matin. Mieux connu sous le nom de Ben, il est venu parler de son livre titré à son nom, Ben Tuhuka de Wapo, paru chez Au Vent des Îles et écrit par son ami Loïc Joss, dans lequel il raconte sa vie, son quotidien, ses études et son départ à Papeete, puis son retour en tant qu'instituteur chez lui aux marquises. La lecture devient croustillante quand il raconte ses rencontres avec Jacques Brel, qui a plombé une soirée avec une de ses chansons, avec Cousteau, étonné de la chasse aux dauphins, et puis les combines avec les gendarmes, mais surtout la renaissance de la culture marquisienne, alors que petit, avec ses copains, il rigolait des vieux qui dansaient et chantaient.
On dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Que font ces vieux-là? Ils font une danse, le mahou, la danse du cochon. Ils étaient plus ou moins émichés pour se donner du courage, je crois. Et tous les chiens du village aboyaient. Ils imitaient le des cochons. Donc les chiens aboyaient en même temps. C'était bizarre et nous, on rigolait. En fait, c'est les bribes de notre culture qui est là, qui est toujours là.
Alors jusqu'à ce qu'arrive Monseigneur Le Cléache, cet évêque catholique breton nommé dans le diocèse de Taïo-Ahae de 1973 à 1986, qui va s'intéresser à la culture marquisienne, apprendre la langue et pousser Ben et ses collègues à faire revivre leur culture.
Il s'est documenté, il s'est imprégné des écrits aussi bien des navigateurs, même des missionnaires, de cette culture magnifique. Il a vu le côté positif. C'est vrai, il y a tous les côtés qui étaient des danses lascives, nues, même la danse du deuil avant que le mort part. Il y a une fille nue qui danse et tout ça. Et nous, je ne demande pas de reproduire ce qui s'est passé autrefois. Il n'y a pas que ça. Vous avez des danses magnifiques, des chants magnifiques qui frisent l'érotisme. C'est de l'art. Ça a changé le mental. Ben, nous, on était imprégnés culture française, puis des conseils de l'Église, parce qu'on est des enfants de l'Église. Hein.
L'important pour Ben était de garder sa voix intacte dans ce livre et de partager toutes ses histoires en restant le plus authentique possible. Je ne voulais rien